Page 6 et 7, suite du dossier Focus sur le centenaire de la naissance de Lyndon LaRouche. Dédollarisation et nouveau Bretton Woods, ce qu'en disait LaRouche. Visionnaire, le penseur et économiste américain Lyndon LaRouche, 1922-2019, dont on a célébré ce 8 septembre le 100e anniversaire de la naissance, avait annoncé en juillet 2000 la désintégration du système financier mondial à laquelle nous assistons aujourd'hui et tracer une voie de sortie. Après l'émergence parfois chaotique de zones économiques et monétaires régionales hors du système FMI, et donc hors du dollar, il prévoyait qu'il s'ouvrira probablement, dans un deuxième temps, le chantier exigeant d'un nouveau Bretton Woods, un accord mondial de coopération basé non plus sur le chantage d'une monnaie sur les autres, mais sur une politique active de coopération mutuellement bénéfique. Extrait. À l'exception des escrocs habituels et de ceux qui ignorent tout de l'économie, on entend dans le monde entier des voix influentes affirmer avec de moins en moins d'hésitation que le système monétaire et financier actuel, sévèrement vérolé, est voué à un effondrement en chaîne précoce. Parmi les cercles concernés, et en dehors des États-Unis, la principale question que l'on se pose est « Comment remplacer le système mondial actuel et par quoi exactement ?» C'est ainsi que des mesures de plus en plus audacieuses ont été prises dans cette direction, en Asie de l'Est et du Sud, surtout depuis que la Malaisie, sous la direction du Premier ministre Mahathir bin Mohamad, a mis en place avec succès une politique de contrôle de capitaux et de change. Ces dernières semaines, les actions désespérées et provocatrices obstinément menées par le secrétaire américain au Trésor, Larry Summers, et le président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, ont provoqué le même type de discussion en dehors de l'Asie. Ces démarches pointent de plus en plus vers l'émergence de systèmes régionaux de coopération économique. En se combinant, ces efforts régionaux pourraient devenir les éléments constitutifs d'un nouveau système monétaire et financier mondial. Un nouveau Bretton Woods, note du traducteur. Une fois que le Fonds monétaire international, FMI, aura été mis en faillite organisée, ou se sera tout simplement désintégré de lui-même. Parmi ceux qui étudient la perspective d'alternatives régionales au FMI en faillite, certains économistes de premier plan estiment qu'une nouvelle approche s'impose. Le système précédent de taux de change fixe, dont la pierre angulaire fut de 1945 à 1966 un dollar à réserve or, pourrait être remplacé par un nouveau système de taux de change relativement fixe, basé cette fois-ci sur des paniers de devises régionales et autres, comme alternative à l'ancien dollar à réserve or. Les propositions les plus médiatisées dans ce sens émanent du groupe de nations asiatiques ASEAN plus 3, pays de l'ASEAN plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud, note du traducteur, et aussi de cercles importants d'Europe continentale. Des discussions similaires sont en cours parmi les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Dans certains cercles européens de haut niveau, l'attention s'est portée à la fois sur les droits de tirage spéciaux dits DTS du FMI et sur la proposition de système monétaire européen, appelé SME, lancée conjointement par le président français Giscard d'Estaing et le chancelier allemand Helmut Schmidt, à la fin des années 1970. Il est utile de comparer ces propositions et d'autres du même type avec la Banque internationale de développement, BID, que j'avais moi-même proposée au milieu des années 1970 et qui suscita à l'époque une attention vigoureusement antagoniste de la part de l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger et des milieux qu'il représente. Roosevelt, Adenauer et De Gaulle. Aujourd'hui, dans les cercles européens concernés comme ailleurs, on s'accorde généralement à dire que ce qu'ont fait les États-Unis à l'époque du président Franklin Roosevelt, en posant les bases d'un système monétaire pour l'après-guerre, a très bien fonctionné, notamment au profit des États-Unis et de l'Europe occidentale. Ce système a prospéré jusqu'au lendemain de cette fatidique année 1963, lorsque le chancelier allemand Konrad Adenauer a été poussé à la démission, que le président américain Kennedy a été assassiné, et que le président français Charles de Gaulle a subi plusieurs tentatives d'assassinat, attaques qui ont marqué le tumultueux changement de paradigme culturel et économique des années 1967 à 1969. Cependant, ceux qui reconnaissent l'urgence d'un retour au principe des accords monétaires internationaux à taux de change fixe d'avant 1971 soulignent également que le dollar américain de cette année 2000, comparé au prestigieux dollar américain et à l'économie américaine encore en vigueur du vivant du président Kennedy, est devenu une chose beaucoup moins prestigieuse. De plus, on peut craindre que sous une nouvelle administration Bush, ou moins probablement une administration Al Gore, la valeur du dollar plongera à des niveaux historiquement bas. Par ailleurs, comme le notent les cercles concernés en Europe et en Asie, la résistance la plus obstinée au rétablissement d'un système de taux de change fixe vient des États-Unis eux-mêmes. Pour cette raison, entre autres, il a été proposé que le nouveau système monétaire fasse appel à un panier de devises pour remplacer le dollar américain convertible en or de la période 1945 à 1965. Si je reconnais que le modèle des droits de tirage spéciaux, DTS, pourrait être un élément majeur de mesures de relance économique requises, je ne suis pas d'accord, tout en gardant une certaine sympathie pour ceux qui plaident en ce sens, avec la suggestion qu'un panier de devises puisse être un élément utile à la réforme monétaire dont le monde a besoin. Mon approche. Au lieu du panier de monnaie évoqué, je propose l'approche suivante en deux phases pour créer le nouveau système monétaire et commercial mondial à taux de change fixe qu'il nous faut établir. À la lumière de la monstrueuse dégénérescence qui affecte l'élaboration de la politique américaine depuis octobre 1998, ainsi que sa crédibilité, il est presque certain qu'une réforme, si elle doit avoir lieu, se fera en deux phases successives, régionales et mondiales. La première phase, comme le suggère la discussion en cours entre les États membres du groupe ASEAN plus 3, se caractérise par la reprise de la proposition d'un fonds monétaire asiatique faite en 1997 par le japonais E. Sakakibara. Ce mécanisme n'est pas seulement conçu comme une mesure défensive contre les attaques de guerre financière des fonds spéculatifs et autres spéculateurs. Il vise également à promouvoir d'urgence des accords de commerce de matières premières et d'amélioration du capital à long terme entre ces nations asiatiques. Au cours de cette première étape, on peut prévoir l'apparition dans différentes régions de la planète de groupements régionaux se chevauchant parfois, ayant des perspectives similaires et coopérant entre eux. La deuxième étape consisterait à établir une organisation monétaire mondiale efficace avec un retour à des taux de change fixes pour remplacer le système du FMI en faillite. Il s'agirait d'un nouveau système monétaire mis sur pied à l'initiative d'alliances régionales de nations participant au processus. Il faut donc examiner la question d'un panier de devises à la lumière du fait que cette approche en deux phases de la réforme est actuellement la seule perspective en vue, en admettant que le monde est encore une perspective favorable de quelque nature que ce soit pour les décennies à venir. Le problème ainsi défini est le suivant. Tant que le système du FMI et ses attributs existeront sous leur forme actuelle, toute tentative d'utiliser un panier de devises pour remplacer le rôle joué par le dollar américain de 1945 à 1963 sera non pas un remède mais un piège. Le monde ne peut pourtant pas attendre qu'une réforme monétaire générale intervienne pour adopter certaines mesures défensives contre les pires effets de la catastrophe financière et monétaire mondiale qui se profile. À ce stade, il devient essentiel d'adopter une première série de mesures pouvant être intégralement mises en place en dehors de la supervision ou de tout contrôle de la finance mondialisée. Il faut donc considérer la réforme monétaire comme un processus en deux étapes. La première est l'émergence de blocs régionaux fonctionnant en dehors du système du FMI ou en parallèle. La deuxième étape sera le rôle crucial de ces blocs régionaux dans le remplacement du FMI. Entre-temps, les mesures prises par ces alliances régionales doivent scrupuleusement éviter les effets désastreux qui résulteraient d'un enchevêtrement systémique de ces mesures dans le système déjà condamné du FMI. Aucun homme prudent ne reste dans sa cabine alors que le Titanic vient de heurter l'iceberg. La transition doit être basée sur des valeurs économiques indépendantes du FMI et assurément capables de lui survivre. En d'autres termes, la valeur des actifs financiers en souffrance doit être ajustée sur la valeur réelle des biens composant le produit intérieur brut mondial. Faute de quoi, aucune politique de relance ne pourra nous tirer de la terrible dépression mondiale qui s'annonce. Donc ceci était un extrait du texte de M. Lyndon LaRouche qu'il avait écrit en juillet 2000 et qu'on peut retrouver dans sa version intégrale sur le site de Solidarité et Progrès, solidaritéprogrès.fr, sous le nom « Dédollarisation et nouveau Bretton Woods, ce qu'en disait LaRouche ».